Salut et bienvenue, c'est CFM Rodez, c'est Seb et c'est une toute nouvelle émission qui commence ce soir. Ça s'appelle « Si les 90s m'étaient comptés », autrement dit « Si les années 90 m'étaient comptés ». On va donc remonter le temps ensemble pour se replonger dans cette époque où Internet, les téléphones portables n'existaient pas, mais par contre, chaque semaine sortaient des disques et des livres, des jeux vidéo qui sont tous devenus cultes. Alors, si vous êtes un fondu de culture bis, vous devriez vous asseoir tranquillement, prendre de quoi vous rafraîchir, car on va passer l'heure qui vient ensemble. Au programme aujourd'hui, le festival Woodstock 94, la BD Sin City, un éphéméride et bien sûr le plein de bonne musique. On commence d'ailleurs tout de suite avec Samayam et Full On.
Tu peux avoir une bière ?
Ok, d'accord, mais pas une brune.
C'était donc Samayam et Full On. J'ai oublié de vous dire dans le mot d'intro que toutes les semaines, on décortiquera aussi un album culte. Et aujourd'hui, j'ai choisi Troublegum, des Irlandais de Therapy. On les écoute d'ailleurs tout de suite. Voici Therapy et Knives.
Oh, salut les mecs.
Salut.
Ça va comme vous voulez ?
Oui, ça va,
c'est cool.
My girlfriend says that I need help. My boyfriend says I'd be better off dead.
I'm gonna get drunk. Come round and fuck you up. I'm gonna
Les spécialistes auront sûrement reconnu Hammerbox, un groupe de Seattle ayant officié entre 1990 et 1994. C'était Head, un titre extrait de Numb, leur deuxième album. Il est temps maintenant de passer à notre rubrique éphéméride 90s, l'occasion de revisiter ensemble la petite et la grande actualité de l'époque. Alors on commence cette première quinzaine de décembre avec souvenir du 1er décembre 1990. C'était la jonction qui était établie sous la Manche entre les équipes françaises et anglaises qui creusaient le tunnel. Et à partir de cette date, n'en déplaise à nos amis anglais, mais l'Angleterre n'était plus tout à fait une île. Le 1er décembre 91, une actu un peu plus légère, puisque c'était les deux doigts coupe-fin qu'on avait coutume d'appeler les Raiders en France, qui sont devenus les Twix et qui depuis n'ont d'ailleurs pas changé de nom. 3 décembre 1994, Sony lance sa première console de jeux vidéo, la PlayStation, et en 10 ans, Sony va quand même en écouler la bagatelle de 100 millions, ce qui est, à mon avis, pas loin d'être un record. 7 décembre 1995, c'est le lancement du DVD, DVD qui révolutionne le monde de la vidéo, puisqu'il va reléguer au placard les VHS, Laserdisc et autres vidéos CD, mais je pense que le Laserdisc et le vidéo CD, vous les aviez tous déjà oubliés. 8 décembre 91, actualité brûlante sur le plan politique, puisque c'est l'éclatement de l'URSS, il y a un coup d'état là-bas, coup d'état fomenté contre Gorbatchev, et c'est Boris Eltsine qui débarque. Le 10 décembre 93, Mandela et Frédéric de Klerk obtiennent le prix Nobel de la paix. 12 décembre 96, les cinéphiles doivent certainement se rappeler de la sortie de Mars Attack, le fameux film de Tim Burton, une invasion extraterrestre qui avait pas mal cartonné à l'époque. Et on termine avec le 13 décembre 1993, une actualité télévisuelle puisque c'est le lancement de la 5e, la chaîne du savoir 5e qui depuis a été rebaptisée France 5 si je ne me trompe pas. Allez, pour l'heure c'est le retour de la musique, on va s'écouter une reprise signée d'un groupe qui à l'époque n'avait pas forcément marqué l'esprit et pourtant son disque était très bon. Voici les Anglais de Gunn avec Word Up. Around.
Voilà, je vous propose de terminer ce journal par un petit tour à Woodstock 94. Comme en 69, le concert est noyé sous la pluie, trempé jusqu'aux os. Beaucoup de spectateurs ont préféré rater Santana, Bob Dylan ou encore Peter Gabriel plutôt que de patauger dans la boue. Comme le disent finement les plaisantins, là-bas, c'est plus Woodstock, c'est Mudstock. In English, mud égale boue. Reportage de notre envoyé spécial dans la boue, Jean-Marc Ilouz.
Eh bien non, c'est pas l'envoyé spécial d'Antenne 2 qui vous parle, mais c'est bel et bien Seb, en direct des studios de CFM Rhodes. Donc on va parler maintenant d'une des résurrections marquantes du festival Woodstock durant les 90s. Je veux parler bien sûr de Woodstock 1994. Alors Woodstock, vous en avez sûrement entendu parler, et pour cause, c'est le plus gros festival jamais organisé, avec un demi-million de spectateurs. C'est vraiment un phénomène culturel à part qui a marqué l'apogée du mouvement hippie et l'histoire du rock tout court. Et donc, Festival Woodstock, c'était 1969, bien sûr. Donc, des hippies, en 1994, hormis peut-être dans quelques lieux reculés de l'Ardèche, il n'en restait plus beaucoup. Mais dans l'inconscient collectif, le souvenir de 1969 était encore bien vivace. Du coup, c'est pas étonnant qu'en 1994, à l'occasion des 25 ans du festival, certains promoteurs aient eu le nez creux et saisi l'opportunité de se remplir les poches en ressuscitant l'événement le temps du week-end du 15 août. Alors, ils se sont installés à 16 km du site originel de Woodstock et ils ont également cherché à s'inscrire dans la continuité du grand frère de 69 en reprenant le slogan qu'ils ont à peine retouché, « Two more days of peace ». Et aussi une affiche qui est complètement flower power et quasiment identique à l'originel. Vous irez jeter un petit coup d'œil sur le web, je pense que vous trouverez ça assez facilement. Alors côté affluence, Woodstock 94 fait quasiment aussi bien, 350 000 spectateurs, dont à peine la moitié s'était acquitté des $135 d'entrée. Et oui, vous avez bien entendu, $135 d'entrée. Bienvenue dans les 90s. C'est désormais les géants Pepsi, Agendas et puis MCI Telecom qui organisent le festival et eux... ils font pas ça pour du beurre. Alors comme en 69, le site fut rapidement saturé et la météo complètement pourrie. Dès le samedi, le festival ressemblait à une énorme flaque où s'improvisaient des concours de glissade et d'énormes batailles de boue qui vaudront à Woodstock 94 son surnom de Mudstock. Alors si vous avez 5 minutes, jetez un coup d'œil à la prestation de Green Day ou alors à celle de Nine Inch Nails et vous comprendrez de quoi je veux parler, puisque je crois bien n'avoir jamais vu jusque-là des roadies bâcher du matériel pour le protéger des jets de mottes de terre. Alors même si idéologiquement Woodstock 94 fut très éloigné de l'édition 69, artistiquement en tout cas, elle a rien à lui envier car on y trouve les meilleurs noms du moment. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Le vendredi, on a quand même Candlebox, Jack Hill et sa tronçonneuse, King's X et Live. Le samedi, Blind Melon, Cypress Hill, Rollins Band, Metallica, Nine Inch Nails, Aerosmith, Primus. Et le dimanche, Green Day, donc, qu'on va s'écouter juste après, les Spin Doctors, Porno for Pyros, et puis les géniaux Red Hot Chili Peppers qui étaient venus sur scène déguisés en ampoule. Alors au total, ils sont plus d'une centaine d'artistes à s'être succédés sur les trois scènes du site, dont certains glorieux anciens comme Joe Cocker, Santana et Crosby, Stills & Nash qui avaient fait le Woodstock 69. Alors Woodstock 94, avec son ambiance bon enfant, sa programmation grand luxe, fut quand même une belle réussite, ce qui ne fut pas le cas de la troisième édition, le Woodstock 99, mais ça c'est une autre histoire et on en reparlera peut-être à l'occasion d'une prochaine émission. Allez, on va s'écouter maintenant un petit extrait justement de Woodstock 94. On va s'écouter Green Day qui était les deux pieds dans la boue certainement au moment où ils ont chanté ce morceau. Voici un petit souvenir donc de cette édition de Woodstock. Voici When I Come Around.
What kind of a day do you want? What kind of a day do you want? Green fucking Day!
Oh, what is this fucking free hippie love shit? How you doing, all you rich motherfuckers?
Well, I heard you cry aloud all the way across town. You've been searching for that someone, and to stay out of the crowd, that you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now and try your wedding eyes. I'm just roaming for the moment, squeezing my back out to target. So uptight you've been thinking about the chimney. No time to touch the world around, cause you know where I'll be found when the cormorant. So don't knock at my door. I'm a loser, a drug user, so I don't need no refusion to try and slap me down, because I know you're right. So go do what you like, make sure you do it wise. You may find out that yourself don't be something. You can't go forcing something if it's just not right. No time to stretch the world around, cause you know where I'll be found when I come around.
Take a bite.
Time and search the world around, but you know where I'll be found. I'll never run down when I come around, when I come around, when I come around.
On vient de s'écouter les Costauds de Brooklyn, Biohazard. Retour donc à l'année 1994 avec Urban Discipline, extrait de leur disque culte du même nom. Et on va rester dans ce rayon métal avec les précurseurs du courant rap métal, les Hollandais de Urban Dance Squad, un groupe que Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, avait d'ailleurs a toujours désigné un petit peu comme des inspirateurs. Et écoutez bien ce démagogue et vous comprendrez de quoi je veux parler. Allez, on les écoute tout de suite. Voici Urban Dance Squad sur CFM, c'est Si les 90s m'étaient comptés. Et voici Démagogue.
Spray can.
C'était parfait, c'est gros Larsen Metal pour lancer le sujet sur Sin City. Si vous ne connaissez pas, vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'avec Sin City, je pouvais pas choisir une BD plus noire. Alors, je sais pas aussi si vous vous intéressiez à la BD durant les années 90, mais si c'est le cas, vous connaissez certainement Frank Miller, l'auteur de Sin City, car il est absolument incontournable. Alors, c'est un gars qui est connu et reconnu pour son travail sur les personnages de Batman et Daredevil. Il a aussi bossé pour le cinéma en signant les scénarios de deux Robocop, le 2 et le 3. C'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs, c'est ce que je me rends compte. Mais en tout cas, son œuvre majeure, c'est la série Sin City. Il a débuté en 1991 et elle s'est étalée sur 7 volumes qui sont sortis à intervalles réguliers durant toutes les années 90. Alors La Ville du Vice, c'est une saga comme il n'en existe pas deux dans toute l'histoire de la BD. En fait, cette série s'apparente à une relecture en mode hardcore des polars des années 20. La toile de fond, de la violence, du crime organisé, des ambiances nocturnes, des atmosphères étouffantes et poisseuses. Bref, Frank Miller nous plonge dans un enfer urbain qui est peuplé d'individus à la dérive, des détectives miteux, des femmes fatales, des flics corrompus, des psychopathes qui traînent toujours à droite à gauche. On est donc loin, très très loin de l'image traditionnelle du comics pour adolescents boutonneux avec ses super-héros habillés en collant. Alors sur Sin City, le modèle de Frank Miller, c'est le loser parfait, la gueule cassée, la démarche lourde, le gars qui est toujours sur le fil du rasoir. C'est vraiment un type de héros qui se personnifie parfaitement dans le trait de Frank Miller, un trait qui est sans concession, abrupt, qui est basé toujours sur l'opposition du noir et du blanc, ce qui donne un contraste qui est absolument saisissant. Alors il y a aussi toujours quelque chose de très cinématographique chez Frank Miller, ce qui explique peut-être qu'il ait travaillé pour le cinéma, c'est que ses planches en fait ressemblent à des storyboards. Alors pas étonnant donc, comme je vous disais, que Hollywood lui ait fait des ponts d'or pour adapter Sin City, ce qui a été fait en 2005 avec Robert Rodriguez pour le premier volume, tandis que le second, qui s'appelle J'ai tué pour elle, va sortir en 2014. Donc vous allez certainement entendre parler de Sin City de Frank Miller dans l'année qui vient. Alors après, reste à voir si, encore une fois, l'esthétique très très particulière de la BD se retrouvera au Cinoche. Il me tarde de voir ça, moi, en tout cas.
As-tu commis des péchés, mon fils ?
Eh ben, c'est-à-dire, mon père, que je voudrais pas qu'on y passe la nuit, alors. Je vais juste vous rencarder sur la dernière fournée. J'ai du sang sur les mains, et pas qu'un peu, voyez ?
Je vois que tu parles par métaphore.
Quand j'ai besoin d'être au parfum d'un truc, je sors de chez moi. Je me trouve un mec qui a les moyens de me rencarder et je l'interroge. Bon, des fois, j'ai du mal à rester zen. Par exemple, vous voyez, ce soir, j'ai liquidé 3 mecs en ville. Je les ai d'abord torturés. C'est ma manière à moi de remonter la chaîne alimentaire. Les 2 premiers, c'était des petites frappes des coursiers de seconde zone. Puis il y a eu Connelly. Le rupin rapace, il vous a donné, mon père.
Alors, mon fils, nous sommes dans la maison de Dieu.
Un nom dépêche avant que je m'énerve.
Work.
Ne grille pas ton joker, mon petit père, en me balançant des mythos de ce genre-là. Trop gros comme gibier.
Il y a une ferme entre North Cross et Lennox. Les preuves sont là. Tu n'as qu'à te baisser pour les ramasser. Quand tu seras en chemin, interroge-toi. Cela vaut-il vraiment la peine de mourir pour le cadavre d'une putain ?
Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Ça vaut la peine d'aller en enfer. Amen.
We'll be right back. Truc 1. Vivez cette journée comme si c'était la dernière.
Je vais pas mourir.
What is pure? What is love? What is faith without trust? What is loneliness without anyone? Where is anywhere without direction?
On vient de s'envoyer une petite doublette d'un si les 90s m'étaient comptés, deux groupes pour le prix d'un, comme on dit. On a commencé avec Bullet La Volta et Sunshine, et calé juste derrière, Sandsfield et Overstand. Alors ces deux groupes, Bullet La Volta et Sandsfield, qui sont largement sous-estimés, pourtant ils étaient absolument excellents. Dommage ouais, qu'ils n'aient pas eu plus de succès. Le groupe qui vient lui en revanche, il est beaucoup moins obscur. Il a cartonné notamment dans les années 90 avec une reprise de Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel, mais personnellement j'ai choisi pour vous Confetti, voici les Lemonheads.
She wanted him to love her, but he didn't.
Le temps passe vite, on arrive déjà presque au terme de l'émission. Il ne nous reste plus qu'à évoquer l'album culte de la semaine. Et cette semaine, comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai choisi d'évoquer Trouble Gum, le deuxième album de Therapy. Alors Therapy, je ne sais pas si vous connaissiez, une rapide présentation s'impose peut-être. Donc c'est un trio nord-irlandais qui s'est formé à Belfast au début des années 90, qui était mené par l'emblématique Andy Cairns. Alors si j'ai choisi aussi de vous parler de ce disque, c'est parce qu'il s'est avéré crucial à plus d'un titre, c'est le cas de le dire, puisque il est sorti exactement le 7 février 1994 et il a permis à Therapy d'entrer au moins provisoirement dans le cercle des plus gros vendeurs de l'époque, puisque Trouble Gum s'est quand même écoulé à 1 million d'exemplaires. Des chiffres qui font d'ailleurs rêver en pleine crise du disque telle que celle qu'on vit en ce moment. Alors, pourquoi ce disque a autant cartonné? Ben, déjà, parce qu'il y a quand même pas moins de 8 singles sur 14 titres qui en furent extraits. Et à mon avis, ça doit être un record dans les années 90. Et puis Trouble Gum, c'est surtout un disque d'une efficacité totale, presque le pendant européen de Nevermind de Nirvana, avec quand même un côté plus sombre et plus nerveux. Alors comme sur Nevermind, Therapy mixe habilement le salé et le sucré, du punk rock, du metal, un peu de pop, une pointe de noise. On est donc très très loin de son prédécesseur qui s'appelait Nurse, qui était largement plus indus rock et qui était pourtant sorti simplement un an avant. Alors rapide, rageur, mélodique, je me souviens qu'à sa sortie, Trouble Gum avait fait l'effet d'une bombe atomique. Essayez-vous et puis vous verrez si c'est possible de résister à un enchaînement aussi diabolique que les titres de la première moitié du disque. C'est tout simplement impossible. Bardé de riffs tendus comme des fils de fer barbelés, avec des refrains à hurler à s'en arracher les cordes vocales, Trouble Gum est le genre de disque qui déboule sur la platine, toute guitare en avant, et qui ne connaît pas de temps mort, quoi. On n'a pas le temps de souffler, il n'y a aucune baisse de régime qui se laisse entrevoir. Et en cela, c'est un disque d'une totale homogénéité. Alors on notera aussi la présence de Page Hamilton, de Helmet sur Unbeliever, qui sont d'ailleurs comme du Helmet, brut de décoffrage. Et puis une reprise de Isolation de Joy Division qui n'a rien d'anecdotique. Alors avec Trouble Gum, Therapy a franchi un cap d'une manière fulgurante. Il a atteint dès ce deuxième album un sommet commercial et artistique et qui n'est jamais venu à nouveau tutoyer. Et moi je me souviens avoir vu le groupe en septembre 94 à Toulouse dans un bikini qui était bondé, chauffé à blanc. Et je peux vous dire que Therapy à l'époque c'était une machine de guerre. Une machine de guerre d'ailleurs qu'on peut entendre sur le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Voici Therapy, un extrait de ce fameux Trouble Gum. Voici Die Laughing. Voilà mes loulous, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous quitte pour cette fois-ci, mais on se retrouve très très bientôt sur CFM Rhodes. On se retrouve très exactement dans 2 semaines pour une nouvelle émission Si les 90s m'étaient comptés. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Ciao. I know damn well, I'm tired of all this crying.